Mzamba.
Mzambira Samirana.
Le journal avec Eddie Claude Ninina Hazgwe.
C'est un réel plaisir de vous retrouver sur la radio Izambaga Tekakawe. C'est le moment du journal de ce mercredi. Nous sommes le 18 octobre 2023. Tout d'abord, les titres. Le projet d'élevage des lapins n'apportera rien à la population. La preuve est que le gouvernement procède par la force pour imposer aux administratifs de montrer l'exemple en soumettant à cet élevage. C'est une critique de Frédéric Mambriou-Villa, président de la CFOR Arusha, que vous suivrez dans ce journal. Tôt ou tard, la justice sera faite pour des victimes des tueries qui ont suivi l'assassinat du président américain Dadaye. C'est l'assurance que donne Emmanuel Nkurunziza, secrétaire d'État des génocides des sections Canada. C'est à 3 jours de la commémoration de cet assassinat, Emmanuel Nkurunziza, que vous suivrez également comme invité du journal. Et puis c'est la détresse au camp des réfugiés burundais de Lusenda. En République démocratique du Congo, plus de 300 maisons ont été emportées par des pluies diluviennes. Ces derniers jours, les familles touchées ne savent pas qu'elles sont sauvées. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Rebonsoir et merci d'être au rendez-vous du journal de la radio Inzamba. L'ordre du ministère de l'Intérieur lancé aux administratifs du sommet à la base d'élevés de lapins montre bel et bien que ce projet n'est pas destiné à la population. C'est la réaction de Frédéric Mambriou-Villa, président de la plateforme de l'opposition CFOR Arusha. Selon lui, si réellement ce projet était destiné à la population, il devait passer par le ministère de l'élevage. Ce projet forcé est par contre du président de la République qui cherche à faire du commerce, à manipuler la population, suivez Frédéric Mambriou-Villa.
Ce n'est pas pour le gouvernement du Burundi, c'est pour le président de la République qui cherche à s'enrichir via des projets personnalisés et en essayant d'intégrer la population dans la production de ses lapins. Il semble qu'il aurait déjà construit l'usine à Gitega pour l'abattage de ces lapins. Comment est-il possible qu'un président pense à son propre projet sans penser aux intérêts de la population, sans penser sur comment la population puisse intégrer, comprendre ses intérêts, mais chercher à l'imposer? Passer par le ministère de l'Intérieur, passer par les gouverneurs, passer par les administrateurs, passer par les forces de l'ordre pour imposer l'élevage des lapins, eh bien, c'est un projet qui doit s'imposer par force. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça a tenu compte des desiderata de la population, loin de là? Donc, ça veut dire que c'est un pouvoir tyrannique qui veut absolument, à tout prix, imposer ce qu'il pense à la population, sans pouvoir écouter les intérêts de la population. Mais je me pose la question. Un citoyen. Il y a beaucoup de citoyens qui vivent des maisons de paille aujourd'hui. Moi, je le sais. Est-ce que vous pouvez élever des lapins dans votre maison? Vous ne pouvez pas les garder à l'extérieur? Qu'est-ce qui se passerait pour une telle personne? Deuxième sous-question. Les premiers lapins vont être distribués par le président ou vont être cherchés par les populations elles-mêmes? J'ai entendu quelqu'un qui disait hier qu'il y a des femmes et des hommes, des Burundais, incapable de s'acheter des lapins. Donc, est-ce qu'il se rend compte des problèmes qu'il vient ajouter aux problèmes existants dans notre propre pays? Donc, cette histoire de force, il faut absolument que ça soit tenu en compte. On ne peut pas imposer par force un projet.
C'était Frédéric Mambriou-Villa, président de la CFOR Arusha. Et puis, dans la suite des interventions sur l'assassinat du président américain Dadaye, dont la commémoration approche 30 ans après, l'association AC Génocide de Chilimoso, section Canada, attend toujours la justice pour toutes les victimes des tueries qui ont suivi s'appuyant sur les enquêtes des Nations Unies qui ont qualifié ces tueries de génocide contre les Tutsis en 1993. Emmanuel Nkurunziza, secrétaire d'assez génocide Canada, tranquillise les victimes que tôt ou tard, justice sera faite. Suivez Emmanuel Nkurunziza.
Il nous incombe d'apporter un message d'abord de réconfort aux rescapés qui viennent de passer 30 ans à attendre une justice qui tarde à se manifester. Mais nous profitons de l'occasion aussi pour leur affirmer que la nature même du crime pour lequel nous cherchons justice nous reconforte en quelque sorte, parce que c'est un crime inamnistiable. On a beau subir du jour au lendemain des régimes issus des mêmes auteurs de ce crime, il se fait hélas que à un moment donné, quand les conditions seront réunies, eh bien l'enquête et les condamnations tomberont. Enfin, nous devons également préciser à l'encontre du Burundi en général, qui n'a ni perdu de membres de famille, chose très rare, je me dis, et qui surtout s'est vu imposer des représentants, des dirigeants issus de son parti politique, alors qu'ils ont commis l'innommable, un crime inamnistiable, de tenir son mal en patience lui aussi. Parce que c'est un fait commis de tous, et nous nous basons justement sur la nature du crime, comme ce fut le cas chez les Arméniens qui ont été tués en masse en 1915, mais pour lesquels il a fallu attendre les années 80 pour qu'enfin le monde reconnaisse qu'il y a eu génocide contre les Arméniens. Eh bien, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait rapide selon les désidératas de la victime, mais c'est quand même réconfortant. C'est pour cela que nous ne devons jamais perdre espoir.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Suite de cette édition, c'est la grogne au sein du personnel du ministère de la Santé et pendant la province de Makamba. Ces fonctionnaires disent que leurs salaires n'ont jamais été harmonisés malgré les recommandations du ministère. Ils demandent aux autorités sanitaires de la province de les rétablir dans leurs droits. Bonfils Nyongele pour les détails.
Comme ils le disent, certains de ces employés, sous contrat, le ministre en charge de la santé publique avait donné des instructions aux responsables sanitaires provinciaux pour la mise en application de cette nouvelle politique d'harmonisation salariale pour le personnel médical. Cette harmonisation allait permettre aux travailleurs sous contrat d'avoir le même salaire avec leurs collègues sous statut ayant les mêmes diplômes. Ces travailleurs sous contrat se lamentent et disent ne pas comprendre comment les responsables sanitaires de la province Makamba n'ont pas encore fait le travail de mise en application de cette politique d'harmonisation qui devrait avoir déjà commencé depuis le début de l'année en cours. Comme ils le disent, ce n'est que le 24 avril de cette année qu'une commission provinciale composée des gens de la Direction provinciale de la santé à Makamba, le responsable du district, a fait une réunion sur la question et a transmis à qui de droit les clauses de cette réunion le 27 juillet. De cette année. Ce travail sous contrat rejette en bloc les conclusions de cette commission, arguant qu'elles sont contraires aux recommandations du ministère de la Santé sur cette question. Les autorités sanitaires auraient constaté que l'harmonisation serait difficile à mettre en application dans certains districts à cause du manque de moyens suffisants, un argument qui n'a pas pu convaincre ces travailleurs. Ils demandent plutôt au ministère de la Santé d'intervenir pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres provinces du pays. La rédaction de la radio Nzambagate Kakawe n'a pas encore eu la réaction des responsables provinciaux sanitaires à Makamba, Gérard Hazio, pour plus d'éclaircissements sur cette question.
Merci, bon fils Niongere Cap, à République démocratique du Congo, où plus de 300 maisons ont été détruites au camp de réfugiés burundais de Lucenda par des pluies diluviennes qui s'y sont abattues ces derniers jours. Les familles affectées sont dans la détresse. Elles disent ne pas comprendre pourquoi les autorités ne sont pas encore allées constater les dégâts afin de leur venir en aide. Suivez son reportage d'Olivia Gakim.
Les maisons qui ont été détruites sont au nombre de 363. En détresse, les réfugiés ne savent pas à quel sein se vouer. Ces maisons s'ajoutent à 800 autres qui avaient été détruites la dernière saison pluvieuse, mais qui n'ont pas encore été réhabilitées. Olivier Iranzi Mangende, qui représente le comité des réfugiés au camp de Lucenda, décrit la situation.
Pour la situation actuelle, est que les réfugiés du camp de Lucenda sont dans une situation de critique aussi difficile à justifier, à défendre. La pluie a laissé beaucoup de réfugiés donc sans adresse au cours des routes, car plus de 363 maisons ont été remportées, autres abîmées. et aussi une multiple de briques qui étaient destinées pour la construction des abris au PBS, et aussi ça a été aussi endommagé. Donc jusqu'à l'heure actuelle, je vous dirais que le camp en général est dans une situation de critique, et c'est pourquoi nous avons interpellé HCR ainsi que la CNEC chargée des réfugiés au niveau national, de vouloir nous montrer où va le camp, puisqu'on ne sait pas nous venons d'où, et puis notre destination est laquelle.
Ce qui étonne, c'est que jusqu'à présent, aucune autorité n'est allée constater les dégâts, alors que ces réfugiés ont besoin d'une aide urgente.
Aujourd'hui, les camps, je vous dis que c'est un endroit, là on n'est pas même pensé qu'ils sont déjà qui habitent et qui sont protégés. Voilà, jusque là, aucune visibilité d'HCR qui est déjà manifestée pour rendre condoléances à ces victimes-là. L'année passée, nous avons enregistré plus de 800 maisons. Mais quand ils sont venus avec au moins 125 maisons pour réhabiliter. Donc, pour la construction, ce n'est que 47 maisons qui est devenu comme un problème majeur pour clôturer ce projet. Donc, c'est tout ça ce que je voulais vous dire en rapport avec la situation du camp des réfugiés burundais de Lusenda, aujourd'hui dans une période pluvieuse.
La rédaction de la radio Inzamba Gateka Kawe n'a pas pu joindre par téléphone Didier Bangala, l'administrateur du camp de réfugiés de Lusenda, pour plus d'informations. Un message lui envoyé n'a pas été lu.
Place à l'invité du journal.
Radio Inzambaga Tekakawe, comme promis, c'est le moment de suivre l'invité de cette édition. Et nous retrouvons Emmanuel Nkurunziza, secrétaire d'Assez Génocide Canada. Il s'entretient avec Jean-Marie Ndabashinzi.
Emmanuel Nkurunziza, bonjour.
Bonjour.
Nous commémorons 30 ans de la disparition du président Melchior Ndadaye et des tueries qui ont suivi cette tragédie que vous appelez au sein de votre organisation Génocide. Ma première question, quels sont les éléments en votre possession pour faire cette qualification?
Merci. Et je dois commencer par cette précision. Ce n'est pas seulement au sein de la CGénocide que nous appelons les tueries qui sont advenues au Burundi en octobre 1993 comme étant des actes de génocide. Nous nous référons, nous citons un rapport d'une commission d'enquête dûment mandatée par l'Organisation des Nations Unies et qui a conclu qu'il y a eu des actes de génocide contre les Tutsis en octobre 1993 et dans les jours qui ont suivi. D'ailleurs, il précise que au 21 octobre et dans les jours qui ont suivi. Donc ce n'est pas une affaire de la seule à ce génocide. Ensuite, je tiens justement à préciser que oui, comme tout Burundais soucieux du bien-être et de la justice dans son pays, nous déplorons nous aussi la perte par assassinat d'un chef d'État, mais nous déplorons également le fait que des gens se basent sur cet assassinat, sur le fait qu'il a été assassiné, pour expliquer a posteriori, justifier même ces actes de génocide. C'est pour cela que, tout en prenant soin de commémorer la disparition de ce chef d'État, nous déplorons, nous dénonçons cette liaison que nous observons qui tend à s'établir, à justifier cet acte, les actes de génocide par cet assassinat du président Melchior Ndadaye.
Pour qualifier les crimes de génocide, on tient compte de plusieurs facteurs, dont sa préparation avant son exécution. Est-ce qu'avant le 21 octobre, vous avez des éléments qui prouvent qu'il y avait la préparation du génocide?
Absolument, nous en avons, et je pourrais même, en cet titre personnel, mais comme nous parlons d'une enquête des Nations Unies, je préfère me baser d'abord sur ce qui a été confirmé par les Nations Unies. C'est-à-dire, la Convention de 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide précise que parmi les cinq éléments, qu'elle identifie comme constitutifs du crime de génocide, il y a donc le meurtre d'un groupe social, religieux ou autre, et puis avec d'autres sous-crimes, ou bien limitation des naissances, transfert des enfants, et mutilation, et le cinquième échappe, mais quand cela ne tienne, l'élément le plus important, c'est un, l'identité de la victime, c'est cela qui justifie, et deux, l'intention de détruire en tout ou en partie. Alors, au Burundi, comme cela a été confirmé par la commission d'enquête des Nations Unies, il y a eu effectivement ciblage du groupe social Tutsi. Comme je le disais tantôt, pour avoir assisté de loin, c'est vrai, à ces scènes, à cette situation, j'étais adulte, l'association à ces génocides a été lancée justement après ces tueries, mais encore une fois, je préfère me baser sur le contenu des rapports des Nations Unies. Donc, dans toutes les provinces où il y a eu ces tueries, on a ciblé, on étant les membres, les militants du représentatif de vous, ils ont ciblé les membres de l'ethnie. Et ensuite, quand je parle de cet élément d'élimination en tout ou en partie, comme cela a été prouvé, ou plutôt confirmé par les Nations Unies, il y avait intention de détruire, y compris justement en détruisant le fœtus dans le ventre de la mère. Ça, je pense qu'il n'y a pas pire, qu'il n'y a pas plus précis comme exemple, comme intention de détruire. Et il y a également le fait que dans certaines localités, les tueries ont commencé par tuer les mâles, les hommes et les garçons. Pourquoi justement? En tant que Burundais, nous savons que la filiation est patrilinéaire et que l'ethnie ou le groupe, le clan est perpétué par le canal donc du père. Ça, c'est encore une preuve. Et cela est consigné encore une fois dans le rapport des Nations Unies qui a été dressé par une commission d'enquête. Et enfin, au risque même de me répéter, mais je pense que ça vaut la peine, c'est que après avoir considéré toutes ces consistances, toutes ces ressemblances dans toutes les provinces du Burundi, eh bien, il a été conclu qu'il y a eu acte de génocide contre les Tutsis. Et je souligne enfin que ce n'est pas au 21 octobre, à l'annonce de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, que ces actes ignobles ont été préparés ni diffusés. La commission a pris soin de préciser que on ne peut pas prétendre à la spontanéité du moment qu'on trouve que les méthodes et les moyens utilisés étaient similaires partout et que cela justement nécessitait, justifie ou plutôt explique, montre qu'il y a eu préparation, enseignement à l'avance. Enfin, je dois citer des déclarations de la part d'un des ministres du gouvernement Melchior Ndadaye, la personne de Shadrach Niyonkuru, quand à l'annonce de l'assassinat du président Melchior Ndadaye a appelé les militants et les associés à mettre en marche le code joint. Le code joint étant le plan justement, celui qu'ils ont mis en marche en octobre, alors qu'il devait être exécuté en juin si jamais il y avait eu soit mauvais record, mauvais score, je vais dire, dans les élections, soit tentative de fraude. Donc l'élément préparation est bel et bien là, l'élément ciblage de l'ethnie aussi est bel et bien là. Encore une fois, ce n'est pas une affaire de la CGNC, ça a été même constaté par des notes des Nations Unies.
Le parti qui est cité dans le rapport des Nations Unies, je cite ici le FODEBU comme étant le concepteur de ce génocide. Les FODEBistes disent qu'au moment des faits, ils n'étaient plus au pouvoir parce que le président avait été assassiné le 21 octobre. Quelles conséquences de ces tueries ou génocides incombent aux putschistes? Votre commentaire, Emmanuel Nkurunziza.
Nous avons également entendu de ces propos, mais hélas, et dommage pour eux, c'est du déjà vu, du déjà entendu, parce que d'abord, si un criminel, ou pour peser même, si un présumé criminel est confronté avec ces faits, eh bien, il est tout à fait normal qu'il se trouve des alibis. Mais hélas, on doit toujours se référer et au droit et au précédent. Il a déjà été remarqué que chaque fois, que ce soit donc au Rwanda, au TPS, que ce soit ailleurs, on se trouve un motif. Tantôt, il y a eu assassinat du secrétaire de l'ambassade d'Allemagne à Paris en 1938 pour déclencher la Kristallnacht. Il y a eu assassinat ou attentat contre le président Habyarimana au Rwanda, que sais-je encore. Donc, qu'on mentionne que c'est la provocation, que cela a été causé par les putschistes, c'est du déjà vu. Ce qui compte le plus ici, nous tenons à souligner que la nature du crime de génocide ne tient pas de l'identité de l'auteur ou du gestionnaire des lieux au moment de l'innommable. Je souligne ici le fait que plus d'une fois, nous avons été soumis à ce discours disant eh bien, on ne peut pas commettre un génocide si on n'est pas au pouvoir. C'est tout à fait faux. C'est ce que je disais et je me réfère toujours à la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression des crimes de génocide. Parmi les éléments constitutifs, les cinq éléments constitutifs, nulle part ne figure la nature ou plutôt l'intervention ou le rôle de l'État. Et en effet, tout en n'étant pas juriste, il est connu de tous qu'un crime est crime non pas à cause de l'auteur, mais à cause de la nature des actes posés et de l'intention de l'auteur. Donc ce faux argumentaire devrait cesser, sinon ça ne fait que confirmer justement que ceux qui l'avancent ont à s'accuser et bien sûr vous fait échapper aux rigueurs de la justice.
Revenons un peu à cet acte ignoble commencé le 21 octobre 1993. Est-ce qu'à ce chirmoso a des chiffres de personnes assassinées?
Merci beaucoup. Sur la question des chiffres, le nombre des victimes, on ne dispose pas de chiffres précis. Par contre, je dois préciser que juste à la veille même du lancement de notre association, parce que nous avons été agréés en 1997, mais bien sûr, les démarches avaient commencé là par avant. La fête génocide de Tchirimesso, comme vous le savez, comme on le sait, elle a été justement lancée, constituée, suite au génocide contre les Tutsis en 1993. Alors, les chiffres dont nous disposons sont tout à fait incomplets. C'est basé sur des témoignages recueillis par 40 associations de développement communal, et ce sont des chiffres de personnes tuées durant le seul mois, enfin, jusqu'à la fin du seul mois de novembre 1993. Eh bien, cela est compilé dans un ouvrage de 915 pages. Le titre, je pense que c'est Burundi, génocide de 93, les associations de la société civile, les organisations de la société civile accusent, je peux me tromper sur le thème précis, mais c'est plus ou moins cela. Eh bien, il est question dans cet ouvrage de quelques, un peu moins de 50 000 personnes, et là je parle des victimes du premier mois, donc ça ce sont des chiffres rassemblés, collectés, rapportés avant novembre 93. Alors, ce qu'il y a eu par après, ça suggère justement qu'il y a eu beaucoup plus de morts. Et il y a un autre fait très important qui est troublant. C'est vraiment triste que dans certaines localités, j'ai toujours cité le cas de la province Karusi, le cas de certaines localités dans Bujumbura, Lirac, Ngozi et Kayanza, Gitega aussi. Il y a des localités où des familles entières ont été décimées, c'est-à-dire où il n'y a même pas eu de survivants pour rapporter, parler du nombre de victimes. Donc ce chiffre est de loin inférieur à la réalité. Enfin, puisqu'on parle des chiffres des victimes, du nombre de victimes, il y a le fait que ce rapport, quelque important qu'il soit, ne mentionne pas la province de Rutana, alors que nous savons que justement, suite dans la foulée, il y a eu également déjà des génocides dans cette localité.
Ma dernière question, Emmanuel, en Burundi qui a vu toute sa famille décimée et qui attend toujours la justice, quel message pouvez-vous lui adresser présentement?
Merci. En tant qu'organisation luttant pour la justice et pour la préservation de la mémoire des victimes du génocide, il nous incombe d'apporter un message d'abord de réconfort aux rescapés qui viennent de passer 30 ans à attendre une justice qui tarde à se manifester. Mais nous profitons de l'occasion aussi pour leur affirmer que la nature même du crime pour lequel nous cherchons justice nous réconforte en quelque sorte, parce que c'est un crime inamnistiable. On a beau subir du jour au lendemain des régimes issus des mêmes auteurs de ce crime, il se fait hélas que, à un moment donné, quand les conditions seront réunies, eh bien l'enquête et les condamnations tomberont. Enfin, nous devons également préciser à l'encontre du Burundi en général, qui n'a ni perdu de membres de famille, chose très rare je me dis, et qui surtout s'est vu imposer des représentants, des dirigeants issus de son parti politique alors qu'ils ont commis l'innommable, un crime inamnistiable, de tenir son mal en patience lui aussi. Parce que c'est en fait connu de tous, le discours du régime actuel, du CNDD-FDD, issu du Fodebou, parce que c'est le Fodebou qui a lancé le CNDD en novembre 1993 à partir de l'hôtel Club du Lac Tanganyika, et ce même Fodebou est un héritier idéologique de l'organisation Ubu, Umugambi w'Abakozi w'Uburundi. Celui-là même, ce parti même qui en 1971 avait appelé à l'élimination des Tutsis par ces tracts qui ont fait le mal que nous avons vu en 1972. Bref, à ce Burundi-là, qui se voit imposer des dirigeants soi-disant de son groupe ethnique, alors qu'en réalité ce sont des criminels impunis, quoique impénitents, il devrait lui aussi garder sa patience, et nous nous basons justement sur la nature du crime, comme ce fut le cas chez les Arméniens qui ont été tués en masse en 1915, mais pour lesquels il a fallu attendre les années 80 pour qu'en fait le monde reconnaisse qu'il y a eu génocide contre les Arméniens. Eh bien, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait rapide selon les désidérata de la victime, mais c'est quand même réconfortant. C'est pour cela que nous ne devons jamais perdre espoir.
Merci Emmanuel Nkurunziza pour avoir donné l'interview à la radio Inzamba Agateka Kawe.
C'est moi qui vous remercie.
Merci Jean-Marie Ndabashinze pour cet entretien. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.